François Chalin. Jeudi, Une vie, une œuvre par Mathieu Garrigou-Lagrange. Vendredi, Les vendredis de la philosophie par François Noudelman. Aujourd'hui, Les mardis littéraires par Pascal Casanova.
Impressionnant, dans sa brièveté peut-être même, qu'il est écrit comme une sorte de conte ou de fable. On parle de mémoire aujourd'hui, donc là c'est une sorte de mémoire très, très différente, très, très paradoxale, la mémoire peut-être du corps, ou la mémoire de la préhistoire dans le corps de chacun, ou la mémoire de l'archaïsme de la préhistoire, je sais pas, de croyances très anciennes et très archaïques. Pour ma part, c'est la première partie qui m'a paru la plus ahurissante, ou la plus époustouflante. Mais Alain Nicolas.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il se raccorde à cette notion de mémoire uniquement au prix de certaines acrobaties, quand même, parce que l'auteur parle de mémoire organique et mimétique, ce qui, en fait, vous aide pas beaucoup.
Il nous aide pas beaucoup.
Un hindouiste parlerait de mémoire karmique, ce serait peut-être plus juste, c'est-à-dire qu'il y a presque une sorte de réincarnation et désincarnation en même temps, dans la mesure où ce qui fait le fond de cette mémoire, c'est la question de la faim, la question de l'amaigrissement, la question du retour à l'état de...
Oui, mais là, vous allez tout de suite à la fin du bouquin, là.
Non, parce que dans la première histoire...
Oui, c'est vrai.
Dans la première histoire est celle, on peut le dire sans révéler grand-chose, c'est celle d'un homme de la préhistoire qui se trouve coincé par la montée de la glaciation, qui se trouve tout seul, coupé des membres de sa tribu, et qui ne doit une sorte de sortie de son apathie et de son désespoir qu'à la présence d'une grande ours, qui va stimuler son appétit de vivre et peut-être aussi sa course vers une autre forme de mort. Il est lui-même déjà particulièrement amaigri parce qu'il n'y a vraiment plus rien à manger. Et on retrouve au temps contemporain un gardien du musée de...
Donc c'est la seconde partie du livre.
Voilà, la seconde partie. En fait, ce sont deux parties tout à fait inégales, parce que la première partie peut faire office de prologue, en fait, et de modèle, à ce modèle imaginaire, à ce qui va se poursuivre, c'est-à-dire l'histoire d'une sorte de champion de jeunes, si on peut dire, hein, pour ça fait penser un peu à Kafka.
C'est un peu un artiste de la faim, oui.
Voilà, c'est ça, c'est cet homme qui décide de perdre, de retourner à l'état de squelette, les squelettes qui sont ses compagnons, puisqu'il passe la journée avec des squelettes d'animaux
dans la grande galerie
fossiles à la grande galerie de l'évolution.
Jean-Baptiste Caron.
Bon, dans la première partie, vous dites qu'il a été séparé des membres de sa tribu. Je pense qu'il a participé à la séparation et que quelques membres de sa tribu
sont... C'est pas dit. Il s'est pas dit, il s'est peut-être...
Enfin, moi, j'ai supposé que quelques membres des membres lui sont passés dans le gosier et la femme le prenait, quand même. Et par ailleurs, ce n'est pas que, même si l'appétit le conduit à sortir de sa grotte gelée et à suivre cette grande ours, ce n'est pas qu'un appétit... de sustentation, c'est aussi un appétit sexuel qui le conduit là. Bon, moi j'ai marché très bien sur cette première partie, j'ai trouvé ça formidable et ça m'a donné une envie, une appétence, un appétit à lire la seconde.
Oui, parce qu'il y a une scène érotique et sexuelle avec la grande ours qui est absolument extraordinaire.
Oui, enfin, ça c'est formidable et elle a son écho dans la deuxième partie. Hein, on voit tout ce qu'on peut aspirer par cette bouche-là. À partir du moment où, alors je ne sais pas, il ne faut pas dévoiler, mais ce n'est pas un film policier, on peut donner le nom de l'assassin.
C'est pas Stephen King, ouais.
À partir du moment où naît cet avorton dans la seconde partie qui va prendre la ligne contraire de l'amaigrissement qu'a choisi le personnage principal, le gardien du musée du Jardin des Plantes, naît un avorton monstrueux qui, lui, va se développer de façon monstrueuse. J'ai trouvé ça un peu beaucoup. Ça m'a coupé l'appétit. Quoi. Le dernier tiers goulu de cet avorton qui n'est pas nommé d'ailleurs, et on ne sait pas d'ailleurs le fils de qui il est, enfin on connaît la mère qui disparaît, tout ça m'a paru une fuite en avant de l'écriture. Enfin, ce garçon qui est jeune, je crois, a un bagout formidable, il a un univers qu'il doit explorer. Je pense qu'il s'est perdu un peu dans la...
Il raconte extrêmement bien ce que c'est, oui, la fascination et le dégoût, l'ambivalence, la puissance pour la sauvagerie, tout ce champ sémantique autour de la grande ours. Il y a des choses, ce espèce de fantastique très très étonnant. Enfin, il a une puissance d'évocation très très...
Ça fonctionne avec une certaine légèreté, si l'on peut dire, parce que la mort est présente partout dans la première partie et avec beaucoup plus de pesanteur dans la seconde.
C'est-à-dire que c'est pas très carré au point de vue narratif, si on peut dire. C'est pas... peut-être que tous les équilibres, les garde-fous sont pas là, mais en même temps, il a une puissance d'une part imaginative et en même temps, il a une écriture qui parfois est un peu là aussi surchargée, qui est loin d'être une écriture maigre et qui nous emporte un peu parce que, en plus, avec ces espèces de sauts comme ça, narratif d'un univers à l'autre.
Parce que l'un des plaisirs de ce livre, c'est de chercher pourquoi les deux textes sont l'un à côté de l'autre, donc les liens entre les deux personnages, entre l'anorexique et l'homme préhistorique.
Ça, c'est un des plaisirs de ce texte. Il y a des correspondances qui se font parfois terme à terme.
Il habite dans sa grotte, il est
voilà, de la reproduction, et puis d'autres qui sont au contraire sur le plan de l'inversion, c'est-à-dire qu'il y a un petit animal qu'on appelle le glouton dans la première partie, qui tout d'un coup se met à prendre une importance excessive.
Oui, parce qu'on peut imaginer que c'est aussi une fable sur la dévoration, sur la...
Oui, il y a une sorte de symétrie qui se fait entre l'amaigrissement extrême, puisqu'il y a même des relevés de pesage, enfin des choses comme ça, et en même temps, sur au contraire la gloutonnerie, l'empiffrement, et qui fait que les corps eux-mêmes se modèlent sur la base de leur régime, et ça c'est effectivement intéressant. Et puis surtout, cette espèce d'absence de cette prise de risque narratif amène à un dénouement, là qu'on ne donnera pas, qui est totalement imprévu et qui est assez beau quand même.
Martine Sonnet, vous avez lu ce texte de...
Oui, moi j'ai bien aimé les deux parties, et notamment par le jeu des correspondances entre les deux. Et par exemple, ce détail de l'ours en pluche, enfin du doudou de l'avorton, qui est une résurgence directe de la grande ours. Enfin, il me semble qu'il y a une grande... Oui, tripée. Je trouve qu'il y a une grande continuité entre les deux parties néanmoins. Et puis moi j'aime beaucoup là, tout ce qui concerne le muséum, le travail au muséum, les groupes d'enfants qui visitent le muséum et leurs réflexions aussi bien sur les squelettes.
Un mot très très court, Bertrand Leclerc, non?
C'est un récit très bref qui se lit d'une traite, en tout cas, parce que par rapport à tout ce qui vient de se dire, c'est peut-être intéressant de noter. C'est-à-dire qu'on est, on est pris dans la narration, en tout cas. C'est un livre très déroutant qui véhicule une image du corps qui, moi, m'intéresse, mais très éloignée de la mienne.
Non, moi, je plaide coupable. L'avorton, puisqu'on l'a nommé comme ça, il n'a pas le nom, m'a effrayé, donc j'ai décidé de ne pas y croire. Mais en fait, c'est parce qu'il m'a fait peur.
Voilà. Le livre de Romain Verger s'appelle Grand Ours, il est publié chez Kidam Éditeur. Sans fin de Bertrand Leclerc qui est publié aux éditions Marencel de Atelier 62 de Martine Sonnet, édition Le Temps qu'il fait et de Grand Ours de Romain Verger, édition Kidam. Tanguy Le Corneau à la documentation, Estelle Gap et Marie-Ève Lacasse à la coordination, Fanny Richer. La semaine prochaine, on parle de littérature tchèque et notamment de la délicieuse histoire du parti pour un progrès modéré dans les limites de la loi du grand Jaroslav Hajek, traduit du tchèque par Michel Chateau qui paraît chez Fayard.